Voilà, on peut vraiment bénir Dieu pour ces jeunes. Hein. Les camps, les colos, on en a fait avec Berit. Ça a toujours été des temps particuliers, mais qu'il faut emmener avec soi, hein, qu'il faut bien serrer dans le cœur. Parce que ce que vous allez affronter lundi, hein, vous reprenez lundi, oui. Mais il sera fidèle, il sera avec vous. Voilà, nous sommes vraiment très très touchés de cette invitation et d'être là au milieu de vous aujourd'hui. Pour partager une petite réflexion, ces derniers temps, on a eu plusieurs appels téléphoniques de frères et sœurs, on a fait des visites, et dans l'atmosphère ambiante, il y a des questions qui se posent, et on nous demande... Qu'est-ce que tu penses de la situation? Qu'est-ce que tu penses? Comment vois-tu ça? Est-ce que le retour du Seigneur, c'est pour bientôt, etc., etc. C'est pas toujours facile de répondre. Et en entendant toutes ces conversations, toutes ces réflexions, dans tout ce que nos frères et sœurs, tout ce que les gens écoutent sur les réseaux sociaux, sur Internet... Après une réflexion, on parle du retour du Seigneur, vivement que Jésus revienne. Et je réalisais que cette attente, ce désir du retour du Seigneur, il n'est pas motivé finalement par cet enthousiasme. Le retour du Seigneur, être avec lui pour l'éternité, ce qui est de loin le meilleur, nous dit Paul. Mais je réalisais que on aimerait tant le retour du Seigneur qui traduit finalement une inquiétude. On est inquiet et on aimerait que le Seigneur revienne finalement pour échapper peut-être à ce monde, aux difficultés de ce monde, parce qu'on ne sait plus comment les aborder, tellement la pression est énorme. Et finalement... On veut le retour du Seigneur pour finalement échapper, peut-être à certaines souffrances, à certaines pressions que le monde nous fait subir. Et c'est plus motivé par la crainte que par l'enthousiasme du retour du Seigneur. Et c'est vrai que ce monde n'est pas rassurant. Il n'a rien de rassurant. Alors, on s'est nourri un peu de ces réflexions que j'aimerais faire deux lectures avec vous ce matin. La première dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 20, où les disciples vivent depuis un certain temps, comme dans une colo, ils ont le Seigneur qui est là, ils sont toujours avec lui, ils voient le Seigneur faire des choses extraordinaires, mais il y a une chose qui les préoccupe. Qui est le plus grand parmi nous ? Qui est le plus grand? Avec tout ce qu'ils vivent avec le Seigneur, voilà leur préoccupation. Surtout qu'il y a deux mamans qui poussent les enfants à être un à sa droite et un à sa gauche quand il reviendra dans la gloire. Alors, le Seigneur va les prendre à l'écart. Et il va leur dire dans Matthieu 20 et verset 25, Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. » Et on a cette impression, et j'étais un peu en retard ce matin parce que je suis tombé sur un voisin qui me faisait part de cette difficulté et de la crainte de pouvoir à la fin du mois payer son loyer. Alors, j'étais un peu attardé, mais je voyais un peu sa détresse, sa crainte, il vient d'être licencié. Que répondre? Que répondre? Et ils ont l'impression que les chefs des nations tyrannisent et que les grands nous asservissent. Et j'aimerais lire un deuxième passage avec vous dans le livre de l'Apocalypse, où il nous est parlé de cette bête qui monte de la terre. Et il nous est dit de cette bête dans Apocalypse 13, verset 14, on commence à partir du verset 14. Elle séduit les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre, de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Et quand on partage avec des frères et sœurs, on réalise qu'il y a des versets bibliques qui leur font un peu peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Où on en est? Et finalement, c'est quoi cette marque de la bête sur la main droite et sur le front? Qu'est-ce que c'est que cette marque? Qu'est-ce que ce chiffre 666? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette marque et ce chiffre 666? Alors, je suis en train d'aiguiser votre curiosité, mais je vais vous décevoir, parce qu'en réalité, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. On peut avoir des pensées, des idées, on voit les choses s'affiner, mais en réalité, il y a encore tellement d'inconnus. Mais on entend tellement de choses, et on aimerait bien savoir. Et si je ne sais pas ce que c'est que cette marque de la bête, ni ce chiffre 666, il y a des choses qu'on sait. Et une chose qu'on peut savoir, c'est que l'adversaire de Dieu fait tout pour imiter ce que Dieu fait. C'est un imitateur, mauvais imitateur, mais imitateur, pour jeter le trouble, la confusion. Et c'est important, en tant que chrétien, quand on trouve un mot dans la parole de Dieu et qu'on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire encore, ou une expression, il est toujours bon de revenir à la source et voir comment le premier mot a été utilisé dans la Bible. Parce que les premiers mots, quand ils sont dans la parole de Dieu, vont poser des bases pour une meilleure compréhension de ce qui va suivre après. Alors, quel est ce signe? Quelle est cette marque? Et ce qu'il y a d'encourageant, c'est qu'on voit que dans la parole de Dieu, c'est Dieu qui pose les bases. Et c'est Dieu qui va placer le premier des signes pour qu'on puisse se repérer sur des choses sûres, certaines, pour notre foi et pour notre vie au quotidien. Et il y a trois signes que le Seigneur va placer d'emblée dès la création du monde. Il va placer le soleil, la lune, les étoiles. Et il va dire, c'est un signe, comme une marque, pour déterminer les temps, les circonstances, les jours, les années. Premier signe, c'est Dieu qui le met. Il va mettre un autre signe au temps de Noé, après le déluge. Et il va dire à Noé, regarde l'arche que je mets dans le ciel. Regardez ce bel arc-en-ciel. Ça serait un signe que je place pour la terre. Un signe d'alliance entre vous et moi. Et ça va concerner la terre comme un témoignage que Dieu fait une alliance avec la terre. Dieu va placer un troisième signe avec Abraham. Et ça sera un signe pour le peuple juif. Abraham, vous allez vous faire circoncire. Et ce sera un signe d'alliance que je fais entre moi et vous. Trois signes. Ces trois signes extraordinaires que Dieu met, il y a une richesse à tirer de ces trois signes. Mais je ne vais pas vous parler de ces trois premiers signes de Dieu. Je voudrais vous parler des signes que Dieu va donner à Moïse. Des signes qui vont complètement impacter mon quotidien. Des signes qui viennent de Dieu et qui sont pour moi très très précieuses au niveau de ma vie quotidienne. Alors, je sais que je vous ai déçu en ne révélant pas ce que c'est que la marque de la bête, L666. Mais, allez, accompagnez-moi quand même dans la parole de Dieu. Voilà, on va faire plusieurs lectures. Je vous propose 4 lectures, très rapides. Très rapides. 2 lectures dans le livre de l'Exode, au chapitre 12, où il nous est parlé de la sortie d'Égypte. Il nous est dit dans Exode 12, chapitre, verset 13, vous connaissez l'histoire, hein, ils vont sortir d'Égypte, et Dieu leur dit au verset 13, « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » On sait que Dieu va rentrer en jugement avec ce monde. Tout le livre de l'Apocalypse nous en parle. Mais voilà le signe, frères et sœurs, que Dieu place sur nos vies. Un jour, nous avons réalisé, par la grâce de Dieu, le pourquoi de l'œuvre de la croix. Nous avons réalisé la valeur du sang de Jésus qui nous purifie de chaque péché. Et quand Dieu nous voit, il voit le sang de son Fils. Ce qui fait qu'il passe outre, qui fait les échos de l'apôtre Paul, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Et ces paroles de l'apôtre, qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Qui nous séparera de son amour? Voilà le premier signe, frères et sœurs, qu'il y a sur nos vies, et qui pour moi est plus important que le signe de la bête. Mais ça, c'est ce que je vis au quotidien. Ma vie est sous le sang de Jésus. Et ça, c'est un signe de Dieu. C'est un fondement solide pour ma vie spirituelle, pour ma vie tout court, avec mon Seigneur. Le sang est sur vos vies. Il n'y a plus de condamnation tant que je reste en lui, en lui. Un deuxième passage, on tourne la page, au chapitre 13, et au verset 8, il nous est dit, « Tu diras alors à ton fils, ah, » c'est un beau témoignage pour les parents chrétiens vis-à-vis de leurs enfants, « Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi, lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main, comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. » Voilà un autre signe. Sur ta main droite, sur tes yeux, un signe de Dieu. On va y revenir. J'aimerais lire 2 autres passages avec vous, dans Deutéronome, au chapitre 6, et au verset 4, c'est la confession de foi d'Israël. « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront sur les frontons de tes yeux. » Et un quatrième texte dans Deutéronome au chapitre 11, il nous est dit au verset 18, « Mettez dans vos cœurs et dans vos âmes ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme un fronton entre vos yeux. » Vous voyez, l'adversaire peut faire une imitation dans le livre de l'Apocalypse, mais c'est Dieu qui met des signes en premier sur nos vies. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dans ce passage d'Hébreux 13 et au verset 8, tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera comme des signes sur ta main droite et sur ton front. C'est un passage extraordinaire parce que le salut en Jésus-Christ, c'est quelque chose de personnel. Personnel. Tu diras à ton fils ce que, en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi. Ce sera comme un signe. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait pour moi, personnellement? Il a subi la croix pour qu'au travers de son sang, je puisse être purifié de chaque péché. Et à cause des faiblesses, à cause de mes manquements, je peux toujours, toujours avoir recours au sang pour retrouver, si je chute, ma communion avec mon Seigneur. C'est ce signe sur ma vie. Quels sont les signes de Dieu sur ma vie? Pour moi, pour toi personnellement. Il a fait de moi son fils. Il a fait de toi son fils, sa fille. Je suis dans la famille de Dieu. Il m'a donné une espérance éternelle. Voilà les signes, frères et sœurs, qui sont sur nos vies. Et ça, ce sont des signes que je vis au quotidien. Nous sommes appelés à les vivre, à nous fortifier dans notre foi. C'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi. Est-ce que l'Éternel a fait pour moi, pour chacun d'entre nous? Il a envoyé son Fils à la croix pour que je puisse bénéficier de l'immensité du salut. Parce que le salut, c'est un mot, mais il referme tant de choses. Il renferme mon pardon, il renferme mon espérance pour l'éternité. Il m'assure de sa présence au quotidien. Oh, mes chers jeunes, vous avez vécu le Seigneur. Vous avez tous dit, on sentait la présence du Seigneur. C'est vrai que c'est des temps particuliers, les camps. Mais même si je ne le sens pas, la présence du Seigneur, elle sera là avec vous. Voilà ce que l'Éternel a fait pour chacun d'entre vous. Voilà où vous devez le chérir dans vos cœurs. Chérir ces signes qui sont sur vos vies. Ce sont des bases sûres parce qu'elles viennent de l'Éternel. Elles ne viennent pas de la marque de la bête. Elles ne dépendent pas de la marque de la bête. Ce sont des signes qui viennent de toute éternité. Et déjà dans l'Exode, ça nous en parle. Ça nous enrichit. Ça vient de très loin. Ça vient même de la pensée de l'éternité de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est important, frères et sœurs, de nourrir nos pensées, de nous souvenir de cette libération qu'il a faite pour moi. Et vous pouvez dire, chacun d'entre vous, c'est pour moi que l'Éternel a fait ça. Et ça, ça fortifie notre foi au quotidien, au travers des difficultés que nous rencontrons. C'est pour moi. Quelle grâce, frères et sœurs, quelle grâce. Et au milieu de vos cours, rappelez-vous, c'est pour vous, c'est pour vous. Il sera votre secours, sa présence sera là. Voilà tout ce qu'il nous a acquis. Voilà tout ce qu'il nous a acquis. Dans Deutéronome, au chapitre 6, Dieu veut que ce soit dans une communion d'amour avec lui. Pas dans une exigence. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu l'aimeras. Et quand je réalise tout ce qu'il a fait, combien il m'a aimé à la croix, ça ne peut être qu'une communion d'amour. Quand je réalise que je suis aimé de lui. Alors, je rends un petit peu de ce qu'il m'a aimé. Simplement en l'aimant, tout simplement en l'aimant, en me souvenant dans mon quotidien de ce qu'il a fait pour moi. Et ses commandements, il les a mis dans mon cœur. Il y a beaucoup de textes qui disent « Je mettrai ma loi dans leur cœur ». C'est déjà en nous, c'est déjà en nous. Et dans Deutéronome 6, il y a aussi cet aspect que finalement je dois garder ça dans mon cœur, mais je dois aussi entretenir, mais je dois aussi transmettre. Transmettre, ça c'est le partage que j'ai là avec les enfants, mais aussi quand je pars en voyage, quand je sors de la maison. Ça c'est ma vie quotidienne quand je rends témoignage de lui, de le témoignage de l'amour qu'il a pour moi, mais aussi de l'amour qu'il a pour mon voisin, pour celui qui n'est peut-être pas agréable, mais cet amour il est aussi pour lui. Il y a aussi ce partage, et ça c'est dans mes pensées, c'est dans mes actions, c'est sur mon front, sur ma vie, sur mes gestes. Dans Deutéronome 11, qui est une synthèse de tout ce qu'on vient de lire, mais il nous est dit « Mettez dans votre cœur et dans vos âmes ces paroles que je vous dis, et vous les lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront sur les frontons entre vos yeux. » Il y a l'idée que Dieu va mettre toute sa loi dans notre cœur, mais j'ai aussi la responsabilité de mettre dans mon cœur tout ce que j'ai appris de lui. C'est une rencontre avec lui. Ça veut dire que moi aussi j'ai malgré tout ce devoir de me nourrir moi-même de cette parole. C'est dans mon cœur, mais moi aussi je dois mettre dans mon cœur, je dois méditer cette parole pour être au diapason de sa pensée. Et voyez-vous, il y a dans Deutéronome 11 que nous venons de lire, de mettre dans nos cœurs, il y a aussi cette attitude à avoir parce qu'il va y avoir des conséquences. Si je me nourris du Seigneur ou si finalement je le néglige. Et au verset 26, il nous est dit « Je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. » Vous voyez, dans sa grâce, là encore, on voit toute la délicatesse de Dieu. Dans l'Apocalypse, quand on voit les signes de la bête, il nous a dit qu'elles vont être imposées. Les petits et les grands n'auront pas le choix. Ça nous sera imposé. Mais on voit là encore toute la délicatesse de Dieu pour sa création. Voilà, je mets devant toi la bénédiction, la malédiction. Il y a un autre texte qui va dire, mais choisis la vie afin que tu vives. On est encouragé à choisir la vie. Mais Dieu nous laisse le choix. Il veut vraiment être servi, être suivi, mais simplement dans cette relation d'amour. Jamais il ne nous oblige à accepter ses commandements. Mais il nous prévient de toutes les grâces, de toutes les bontés qu'il y a à lui obéir et de tous les pièges qu'on évitera en lui obéissant et toutes les blessures qu'on s'évitera en lui obéissant dans une communion avec lui. Mais il ne nous oblige pas, contrairement à la marque la bête où il nous obligera, où il y aura une tyrannie, mais Dieu ne nous tyrannise pas. C'est une communion d'amour avec lui. Et finalement, les signes sur la main et sur le front sont l'acceptation constante du souvenir d'où il m'a tiré pour m'emmener dans le royaume du Fils de son amour et par quels moyens il m'a sauvé de la perdition par son sang. Par son sang. Voilà la marque qu'il y a sur mon front et sur ma main. Je garde et j'agis en fonction de sa pensée. Ma main, ce sont mes actions. Et ma pensée, c'est l'influence de sa pensée sur ma vie. Et combien la parole de Dieu nous encourage à être renouvelés dans nos pensées. Paul poussera la hardiesse jusqu'à dire « Or nous, nous avons la pensée de Christ. » Mais je n'ai pas la pensée de Christ pour en remontrer aux autres. Je n'ai pas la pensée de Christ pour vous expliquer par A plus B qu'est-ce que la marque de la bête ou le 666. Mais je dois avoir la pensée de Christ déjà pour gérer ma propre vie. Et si je peux donner un conseil à quelqu'un, si je peux aider quelqu'un par une pensée, comme l'a fait notre petite sœur dans le camp, eh bien, c'est simplement une grâce. C'est simplement une grâce. Mais je dois avoir la pensée de Christ déjà pour gérer ma propre vie, qui n'est déjà pas une chose facile. Et de la pensée de Christ pour diriger ma vie doit se manifester dans ma main, c'est-à-dire dans les actions, au travers de mon témoignage, pour que ceux qui m'entourent puissent voir qu'il y a une autre pensée que la pensée de ce monde, une pensée bienveillante, une pensée avec derrière toute l'œuvre du salut et toute la bonté et toute la grâce de Dieu. Et ça se manifeste en recevant les pensées de Dieu pour ma propre vie, mais qui doit être transmise par mes actions. Vous savez, les Juifs, le judaïsme est spirituel, mais qui se traduit aussi par du matériel. Et quand on lit ces textes qu'on vient de lire, vous savez, les Juifs mettent des éléments sur eux, des signes sur leur front et sur leurs mains, ce qui s'appelle les téfilim. Et ils ont des petites boîtes. Alors ils mettent un boîtier sur leur front et ils l'attachent. C'est très délicat à mettre quand on n'est pas habitué, très délicat. Et dans cette petite boîte, il y a trois petits compartiments. Et dans ces trois compartiments, il y a les versets bibliques qu'on vient de lire. Et il y a sur leurs bras, ils mettent une lanière en cuir qui roule 7 fois. Et là, il y a un petit boîtier, le même que sur, qui est tourné du côté du cœur. Et il y a les mêmes versets bibliques qui sont là. Pour dire qu'il faut que je me rappelle des pensées de Dieu. Pour que ces pensées de Dieu, elles puissent influencer mes actions. Et quand un juif pieux met ses téfilim, il met toutes ses lanières autour, ça prend un certain temps, mais il n'a pas le droit de faire autre chose sans qu'il ait d'abord mis aussi sur la main. Il ne peut pas mettre sur la tête et faire autre chose, puis après mettre sur le bras. Non, il doit faire ça d'un seul geste, d'un seul mouvement, il met ça, et tout de suite, pour dire que mes actions, mes pensées ne doivent être entravées par rien. Mes pensées doivent être automatiquement calquées sur mes gestes. Alors je n'ai pas le droit de m'arrêter. Mes pensées doivent vraiment influencer mes actions. Et mes pensées doivent être en accord avec l'esprit de la parole de Dieu pour imprégner mes gestes dans mon témoignage, dans l'aide que j'ai à apporter, dans la pensée de Christ. C'est pour ça que nous devons avoir nos pensées renouvelées. Et nous sommes encouragés, la parole nous encourage d'avoir nos pensées renouvelées. Une version dit « Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». J'aime bien une autre version qui dit « Ayez la façon de penser de Jésus-Christ ». Ayez sa façon de penser pour que mes actions puissent être calquées sur ses pensées. Pour nous, chrétiens, il ne s'agit pas d'avoir peur des signes de l'Apocalypse que la bête mettra sur les gens. Les signes de l'Apocalypse seront peut-être un signe visible, peut-être, mais avant que la bête mette un signe visible sur les gens, il va d'abord faire que, avec une séduction comme le monde n'a jamais connue, il va d'abord faire que une mentalité de pensée sera atteinte et influencée. Et ça traduira l'état d'âme, l'état d'esprit de ce monde. Avant que les gens reçoivent cette marque de la bête, il va y avoir toute une préparation dans les pensées et dans les comportements. Car leurs actions va refléter leurs pensées. Et quand nous voyons toute la violence qu'il y a aujourd'hui au quotidien. Nous voyons que les pensées sont déjà influencées. Et ces pensées des gens de nos contemporains seront en face avec le pouvoir tyrannique que l'adversaire va mettre sur ce joug qui est sur ce monde. La marque de la bête sera une pensée contraire à toutes les pensées de Jésus-Christ. Il y aura une tyrannie, un asservissement des populations. Et la marque de la bête sera une pensée contraire à la pensée de Christ. Et les gens adhéreront à la pensée de la bête et leur action traduira cette pensée. C'est pour ça qu'il faut garder vraiment nos pensées en Jésus-Christ, frères et sœurs. C'est primordial de garder nos pensées. Vous savez, nos pensées vont être tellement bousculées, elles le sont déjà. Et nous avons vraiment besoin d'être renouvelés dans nos pensées. Alors, les signes de l'Apocalypse seront peut-être des signes visibles. Il y aura une telle séduction sur ce monde, que les actions des gens reflèteront les pensées qu'il y a dans ce monde.
Voilà, et bien pour conclure, j'aimerais vous laisser un passage de l'Écriture dans Hébreux chapitre 13, versets 20 et 21. « Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toutes bonnes œuvres dans l'accomplissement de sa volonté, et qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, que dans ces temps troublés, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen.